Nous allons être ce soir dans Hébreux chapitre 10, dans un passage assez long, mais qu'on va couvrir en regardant section par section, ce qu'on appelle souvent la conclusion de la partie doctrinale de l'Épître aux Hébreux. Alors pour ceux qui aiment ce qui est théologique, ce qui est abstrait, dans un sens, il faut réfléchir au concept et tout, c'est assez triste, parce qu'on va faire moins de théologie à partir de la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent plus les exhortations, la pratique, ils sont très heureux qu'on en arrive là. Mais vous savez, la Bible était écrite pour des gens avec des personnalités très différentes, et ils nous parlent de différentes manières. Nous allons regarder ce qui est enseigné ici au sujet de Christ et de son œuvre, avec bien sûr, même si les exhortations pratiques commencent vraiment la prochaine fois, regardons ce que ça change pour nous aujourd'hui aussi. Pour rappel, le message que nous avons vu à travers l'enseignement des dernières semaines, à partir du début du chapitre 8, c'est que Christ est supérieur au culte de l'ancienne alliance, c'est-à-dire de l'alliance mosaïque qui était faite avec Israël au mont Sinaï et qui faisait partie de l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la venue de Christ. Et on a vu que Christ est le meilleur et le nouveau souverain sacrificateur ou grand prêtre, celui qui est à la tête de l'adoration de Dieu, que nous avons une nouvelle et une meilleure alliance, n'est-ce pas, qui était donnée et qui était annoncée dans l'Ancien Testament, et que cette nouvelle alliance a été établie par un meilleur sang qui a été versé, le sang de Christ. Et nous avons vu cela la dernière fois. Et donc, on arrive maintenant à la conclusion de cette question avec une dernière comparaison favorable pour montrer la supériorité de Christ sur ce qui est venu avant. Et on va commencer simplement en lisant les versets 1 à 4 avec quelques observations, quelques réflexions sur ce passage avant de voir la suite. Donc Hébreux chapitre 10, les versets 1 à 4. Nous y lisons ceci. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient pas eu aucune conscience de leur péché. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Bon, l'auteur commence cette partie en disant « en effet ». C'est-à-dire qu'il est en train de reprendre des idées qui étaient déjà présentes. Et ici, il veut vraiment enfoncer le clou, on pourrait dire, dans un certain sens, à cette dépendance à l'ancienne alliance, ou peut-être juste arriver à cette conclusion. Mais en effet, il veut rappeler une fois de plus que les choses de l'ancienne alliance qui sont bonnes et qu'il aime, c'est clair, en lisant l'auteur aux Hébreux, on se demande combien de temps il va passer à parler des souverains sacrificateurs, du tabernacle, et c'est parce qu'il aime ces choses. S'il s'en fichait, il serait passé outre en quelques lignes. Mais malgré le fait qu'il aime, il reconnaît que ce sont des ombres. Ce ne sont pas la réalité. Et dit au verset 1, c'est une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. Et ça, c'est quelque chose qu'il dit depuis un moment. Si vous regardez au chapitre 8, au verset 5, en parlant du culte, il dit ceci. « Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. » Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Au chapitre 9, il dit au verset 9 et 10 que c'est une figure, ce qui se passait sous l'ancienne alliance, c'est une figure du temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions, et imposées jusqu'à un temps de réforme. Et puis, aussi au chapitre 9, au verset 23, il dira « Il était donc nécessaire que d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte, et d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. » Et ce qu'on voit dans tous ces passages, et ce qui est répété systématiquement, c'est ce qui venait dans l'ancienne alliance était utile, était nécessaire, mais que c'était une image, que c'était une ombre, que c'était une représentation, quelque chose qui signifiait une réalité plus grande qui qui allait venir. Et donc tout ce que nous trouvons dans l'ancienne alliance, y compris les sacrifices, le sacerdoce, c'est-à-dire les prêtres qui sont là, le tabernacle et le temple, la loi mosaïque et tout le reste sont des images. Ce sont des ombres, des signes qui préparent quelque chose de plus réel ou de parfaitement réel qui va venir. Et désormais, en Jésus-Christ, la réalité est présente. Elle est là parmi nous. Et ce qui était imparfait, même si c'était utile et nécessaire, est remplacé par ce qui est parfait. Vous voyez cela. On ne sait pas exactement pourquoi l'auteur aux Hébreux a envoyé sa lettre, mais on pense qu'il l'a envoyé à des chrétiens d'origine juive. C'est pour ça qu'on l'appelle l'épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait possible qu'ils étaient tentés, à cause des persécutions, à cause des difficultés qui allaient venir dans l'Empire romain, de revenir au culte de l'ancienne alliance. Pour des raisons familiaux, pour des raisons sociales, pour des raisons de protection dans l'Empire romain, les Juifs étaient souvent, même si pas toujours, protégés par l'Empire. Et de dire, ces ombres, ces choses de l'ancienne alliance viennent de Dieu, et donc on va mettre notre confiance dans ces choses-là plutôt qu'en Christ. Parce que le danger est trop grand, la persécution est trop forte, le risque est trop élevé. Et si c'est le cas, on n'est pas sûr que ce soit le cas, mais si ça c'est le cas, l'avertissement pour eux, c'est de dire, ne sacrifiez pas la réalité pour l'image. Ne retournez pas à des choses qui ne sont que des ombres quand la réalité est là. Parce que Christ est le but ultime. Il n'y a rien ni personne qui peut prendre la place de Christ ou qui peut offrir quelque chose de meilleur. En fait, ça va même plus loin que ça. Une fois que Christ est venu, il n'y a rien ni personne d'autre qui peut nous amener jusqu'à Dieu. Christ dit lui-même qu'il est le seul chemin qui mène jusqu'au Père. Et donc, toute réflexion, toute idée de revenir en arrière à ce qui était avant, que ce soit pour les chrétiens d'origine juive de revenir au rituel de l'ancienne alliance ou pour les païens de revenir à leur culte des idoles, aucun retour en arrière n'est légitime parce que c'est abandonner la réalité et la seule source de salut. Et donc, le message ici est très clair. Ne courez pas après des images, ne courez pas après les ombres, mais chercher la réalité qui est Christ. Et ça, c'est le message. Et maintenant, il va donc expliquer comment c'est vrai. Il va justifier sa réponse. Et premièrement, il fait appel à notre raisonnement, à notre logique. Comment est-ce que ce culte de l'ancienne alliance est inférieur? Bon, on a vu différentes raisons, mais dans le sacrifice de Jésus, il va montrer quelque chose. Ces sacrifices, en revenant à notre passage, ne peuvent pas, premièrement, amener à la perfection. Elles ne peuvent pas rendre la personne qui les offre parfaites. Bon, nous savons que les sacrifices dans l'ancienne alliance étaient toujours identiques. Tous les jours, les mêmes sacrifices offerts. Chaque mois, certains sacrifices particuliers étaient offerts. Et puis, chaque année, certains sacrifices particuliers étaient offerts aussi. Elles étaient offertes perpétuellement. On pense, si on prenait que les sacrifices officiels qui faisaient partie du culte, sans compter les sacrifices individuels des gens qui venaient au temple ou au tabernacle pour des péchés personnels, pour des offrandes personnelles, mais juste ceux qui faisaient partie du culte pour tout le peuple, qui avaient plus de 1000 sacrifices offerts par année. Plus de 1000 sacrifices, donc en moyenne un peu autour de 3 par jour. Plus de 1000 sacrifices offerts pour le peuple devant Dieu. Jour après jour, mois après mois, année après année, ces sacrifices continuels. Et nous sommes invités à réfléchir à cela. Si le sacrifice réglait le problème, on n'aurait plus besoin de l'offrir à nouveau. Si le sacrifice pouvait amener à la perfection, bon, il n'y aurait plus besoin d'offrir le même sacrifice le jour suivant. Et voici le problème avec les sacrifices de l'ancienne alliance. Elles n'amènent pas à la perfection. Et au contraire, il faut les répéter sans arrêt pour pouvoir continuer. Quand on parle de parfait ici, ce n'est pas l'idée, on veut souligner en Christ, ce n'est pas l'idée, je suis baptisé et pouf, je ne commets plus de péché, j'ai plus de tentation, j'ai plus de mauvaises pensées, parce que vous savez que ce n'est pas arrivé pour vous. L'idée d'arriver à la perfection, c'est l'idée d'être parfaitement pardonné et purifié pour avoir accès à Dieu. Ça, c'est le but de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, c'est d'avoir ce rapprochement entre Dieu et les hommes, qui a été perdu dans le jardin avec le péché de l'homme et la femme. Et les sacrifices et tout le système hein, des sacrifices des animaux, le sacerdoce, permettait aux hommes et aux femmes, au peuple d'Israël, de se rapprocher de Dieu. Mais il y avait toujours le voile entre eux et la présence de Dieu. Il y avait toujours cette séparation. Il y a un rapprochement, mais il n'y a pas la perfection. Et donc la perfection dans la pensée juive, ce n'est pas juste l'idée d'être moralement irréprochable. L'idée de la perfection, c'est la plénitude. C'est la chose qui est complétée. Et avec l'ancienne alliance, le rapprochement entre Dieu et les hommes n'est pas complété. Il y a toujours des barrières, des obstacles qui sont là. La libération du péché n'est pas complétée. La connaissance du bien et du mal est présente dans la loi, mais la capacité à vaincre le mal n'est pas présente. Et donc, ce que l'ancienne alliance offre n'est pas parfait, n'est pas suffisant pour vaincre le mal, vaincre la mort, vaincre le péché, et n'est pas suffisant pour ouvrir la voie à Dieu. La séparation reste toujours présente. Mais Dieu désire la perfection dans la rédemption et dans le pardon. Et cette chose n'arrive pas avant Jésus-Christ. Malgré le rapprochement donc dans l'ancienne alliance entre Dieu et les hommes, la séparation est toujours là. Et la solution ne se trouve pas dans l'ancienne alliance. Sinon, il n'y aurait pas besoin de répéter sans cesse ces sacrifices. Charles White, dans son commentaire, donne l'exemple d'un prédicateur anglophone qui s'appelle Barclay, qui dit « Vous avez un homme très gravement malade. » Et il va voir le médecin. Le médecin lui donne un flacon de médicaments et lui dit « Prenez un médicament par jour. » Il dit « Il y a deux possibilités. Soit il prend le médicament et il est guéri. Et alors, qu'est-ce que cet homme qui était malade va penser chaque fois qu'il voit le flacon ?« J'étais malade, mais ce médicament m'a guéri. » N'est-ce pas ? Et ça deviendra pour lui source de joie. Mais s'il prend le médicament et il reste malade, qu'est-ce qu'il va penser chaque matin quand il voit le flacon et qu'il prend le médicament ? Bon, ce ne sera pas une source de joie, mais un rappel qu'il est malade et qu'il doit prendre le médicament, mais qu'il ne change pas et qu'il ne guérit pas. Et ça, c'est ce qui se passe avec les sacrifices. Tous les jours, on offre les sacrifices pour le péché, mais plutôt que d'être une source de joie, c'est une source de tristesse, parce que ça devient un rappel perpétuel que la maladie est toujours présente. Et ce qui est un bien, parce que les sacrifices étaient un bien, devient une source de tristesse, parce que ça devient un rappel perpétuel du péché et de la culpabilité devant Dieu. Vous voyez ce qui se passe là. Dieu a prévu mieux que cela. Et ça, ce n'est pas le message pour nous. Ce n'est pas ce que nous avons en Christ. Et juste... En passant, quelques réflexions pour nous, et je crois que je l'ai mentionné même il y a 2 semaines. Quand nous nous réunissons en tant qu'Église, quand nous sommes ensemble, notre but n'est pas de nous rappeler de tous nos péchés. Notre but, en prenant le repas du Seigneur, ce n'est pas de passer en revue tous les péchés de notre semaine pour que Dieu nous en pardonne. Alors, c'est tout à fait vrai que Paul parle dans 1 Corinthiens 11 de s'examiner soi-même, mais je ne crois pas qu'il est en train de dire ici, dans le contexte d'1 Corinthiens 11, il n'est pas en train de dire « il faut que vous fassiez une liste mentale dans votre prière pendant le repas du Seigneur de tous les péchés que vous avez commis ». Ce n'est pas l'idée de faire le bilan et d'avoir le rappel perpétuel de nos péchés. Ce n'est pas pour cela que Christ est venu ou que nous prenons le repas du Seigneur. Je crois que d'ailleurs, l'idée dans 1 Corinthiens 11, quand il dit s'examiner soi-même, c'est vis-à-vis du corps de Christ. Il parle à une église où, pendant le repas du Seigneur, il y a les riches qui méprisent les pauvres, les gens qui ne s'attendent pas, des gens qui sont en train de s'enivrer à la table du Seigneur. Et ils ont besoin de s'examiner par rapport à ça, parce qu'ils attirent le jugement de Dieu sur eux-mêmes. Mais nous prenons le repas du Seigneur, pas pour nous rappeler de nos péchés, même si nous en avons commis, mais pour nous rappeler de la perfection du pardon de Dieu en Jésus-Christ. C'est une source de joie parce qu'on se souvient que Christ a tout fait pour nous et nous a parfaitement libérés. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, lorsqu'on chante au sujet de Jésus, ce n'est pas pour passer en revue nos péchés, mais c'est pour être plein de joie parce que nous sommes conscients d'avoir été purifiés et rendus parfaits par Jésus-Christ et non pas nos œuvres. Vous voyez la différence. Bien sûr, nous voulons grandir dans la sanctification. Nous voulons nous repentir de nos péchés, les confesser les uns aux autres. Mais ça, ce n'est pas la pierre de touche de notre foi, ni de notre culte. Ce n'est pas le souvenir du péché, mais plutôt la célébration de la libération et du règne de Jésus-Christ. Nous sommes libérés du péché. Ça, c'est le message qui est présent. Puis finalement, il dit, car le sang des boucs et des taureaux ne peut pas ôter les péchés. Et de nouveau, il faut souligner quelque chose. Dieu promet de pardonner ceux qui viennent à lui dans l'Ancien Testament. Il promet de pardonner ceux qui offraient ses sacrifices pour le péché avec un cœur sincère. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, est un Dieu qui pardonne. Il suffit de lire quelques pages pour voir cela. C'est pas comme si avec Jésus, tout d'un coup, Dieu qui pardonnait jamais se met à pardonner. Mais de nouveau, il faut mettre dans son contexte ces sacrifices de l'ancienne alliance. Ces sacrifices permettaient, c'était un moyen que Dieu avait choisi pour pardonner les péchés commis par le peuple. Mais ces sacrifices ne pouvaient pas enlever de manière définitive le péché de l'homme, la tare du péché qui était là. Ces sacrifices ne peuvent pas résoudre le problème humain et le problème cosmique du péché. Ce sont simplement des solutions à court terme pour les péchés commis qui sont là. Et c'est comme on a vu, ces sacrifices n'ôtent pas la séparation entre Dieu et les hommes non plus. Si les sacrifices sont efficaces, on pourrait dire à petite échelle, leur efficacité vient du fait que Christ va être sacrifié plus tard. Ce n'est pas dans le sang des boucs ou dans le sang des taureaux qu'il y a le pardon, mais dans le sang de Jésus. Et le sang des boucs et des taureaux est efficace parce qu'elle anticipe Christ qui doit venir. Et c'est seulement à cause du sacrifice de Christ que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient efficaces. Voici ce qu'on a vu dans Hébreux 9, verset 15, au sujet de Christ. « Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions, commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. » Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il dit là. Il dit « La mort de Christ était là pour les péchés commis sous l'ancienne alliance. » C'est-à-dire que l'efficacité du système sacrificiel de l'Ancien Testament vient de Christ. Bon, pour nous, ça nous semble bizarre parce que Christ est venu après. Comment est-ce que ça peut être rétroactif en quelque sorte? Bon, Dieu n'est pas limité par le temps comme nous le sommes et son dessein est là de toute éternité. Mais les Écritures disent très clairement que le pardon que Dieu a toujours donné aux hommes depuis toujours vient de Christ et vient de son sacrifice et peuvent seulement exister à cause de cela. Il fallait le sacrifice de Jésus pour que les sacrifices de l'Ancien Testament soient efficaces. Parce que vous savez, n'est-ce pas, une ombre ne peut pas exister sans la réalité. Okay. Si quelque chose est une ombre, elle est seulement là parce que la réalité est présente. Et ça, c'est vrai pour l'Ancienne Alliance aussi. Le pardon de l'Ancien Testament est seulement efficace parce que la réalité du pardon en Christ est présente. Et donc, elle est dépendante de cette réalité qui vient en Jésus. Donc ça, c'est le message de tout le passage jusqu'au verset 18 qui est là. Du fait de cette répétition perpétuelle et de leur inefficacité pour résoudre le problème du mal, les sacrifices de l'Ancienne Alliance sont révélés comme insuffisantes pour rendre parfait. Ce sont simplement l'image de la chose plus parfaite qui doit venir. Et ça, c'est ce que nous trouvons en Jésus-Christ, celui qui amène la perfection et la justification. Et donc, maintenant, l'auteur, à partir du verset 5, va justifier ce qu'il dit, non seulement par le raisonnement spirituel, on va dire, mais aussi à partir des promesses de l'Ancien Testament. Donc, on lit au verset 5 à 10. « C'est pourquoi, donc Hébreux 10, 5 à 10, « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et nous avons donc une explication du passage. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Bon, nous avons ici une citation et puis une explication qu'on peut appeler christologique du psaume 40, les versets 7 et 8. Et l'auteur est en train de citer ici la traduction grecque du texte. Il ne cite pas le texte hébreu que nous avons comme base pour l'Ancien Testament en français aujourd'hui. Et donc, la grosse différence que vous verrez si vous comparez, c'est le texte qui est cité par l'auteur des Hébreux, il dit « Tu m'as formé un corps », qui correspond à ce qu'on appelle la Septante, l'Ancien Testament en grec. Et en hébreu, il dit « Tu as creusé mon oreille ». Okay. Alors, Pourquoi il y a cette différence? Enfin, je ne suis pas du tout un expert, mais il y a deux raisons possibles. Qu'est-ce que les auteurs en hébreu veulent dire quand ils disent creuser l'oreille? Il y a deux possibilités. Soit c'est simplement une image qui est donnée. On pouvait utiliser ce qu'on appelle une synecdoque. J'ai dû aller chercher le mot dans le dictionnaire. Mais c'est l'idée qu'on prend quelque chose de plus petit pour représenter l'ensemble. Et que Dieu qui creuse l'oreille, qui forme l'oreille, représente tout l'être humain qui est formé par lui. Et que les traducteurs ont dit, bon, il dit creuser l'oreille, mais il veut dire créer l'être humain. Et c'est pour ça. Et ça correspond, c'est-à-dire que tout entier nous appartenant à Dieu. Mais il y avait aussi une pratique qu'on voit dans l'Ancien Testament chez les Hébreux, qui était que si un esclave affranchi ne souhaitait pas quitter la maison de son maître, il pouvait devenir esclave à vie ou serviteur à vie pour le maître. Et vous savez quelle était la tradition qui faisait? Bon, il mettait l'oreille contre le linteau de la porte ou le battant de la porte, et puis il clouait l'oreille à la porte pour montrer j'appartiens, je fais partie de cette maison. Et donc peut-être ce que David est en train de dire, c'est tu m'as creusé l'oreille, c'est-à-dire tu m'as cloué à ta porte pour que je fasse partie de ta maison. Mais dans les deux cas, l'idée ici, c'est que tout l'être, pas juste l'oreille, appartient à Dieu. Okay, fait partie de ce qui appartient pleinement à Dieu. Et c'est cette même idée qui est donnée ici pour Christ. Mais ce que nous avons ici, c'est une lecture qu'on appellerait christocentrique ou christologique du passage. Nous prenons un texte qui était là pour parler d'autre chose, mais nous voyons à la lumière de Christ comment elle révèle le plan de Dieu. Et les auteurs du Nouveau Testament, c'est intéressant, ils traitent l'Ancien Testament. Eux, ils appelaient ça juste les Écritures, pas l'Ancien Testament. Mais un peu comme on a vu, c'est l'ombre qui devient une réalité avec Jésus-Christ. Et il y a cette comparaison avec David. Et vous voyez les deux. David dit, bon, tu m'as formé mon corps ou tu as creusé mon oreille. Et ça, c'est ce qui est vrai pour Jésus aussi, n'est-ce pas? Il est devenu incarné. Il a reçu un corps. Il est devenu homme comme nous dans le plan de Dieu. David reconnaît ce qui était dit par beaucoup des saints de l'ancienne alliance, des prophètes, de ceux qui étaient appelés, que Dieu n'était pas satisfait seulement par les sacrifices. Il dit, tu n'as pas voulu les sacrifices, mais plutôt à cette bonne volonté. Et nous voyons que Jésus vient aussi pour dire, ce n'est pas les sacrifices de l'ancienne alliance qui sont la réponse finale, c'est le sacrifice de Jésus. Et David qui dit, donc je viens à toi pour faire ta volonté. Et c'est cette notion de repentance ou de se donner tout entier à Dieu. Et Jésus qui lui-même est la solution finale. Ce n'est pas les sacrifices de l'ancienne alliance, pas les holocaustes ou les sacrifices pour le péché, mais c'est Christ qui vient pour faire la volonté du Père qui devient notre source de sanctification. Je ne crois pas que David était conscient qu'il préparait Christ par ces passages, mais Dieu qui inspire David, oui, il est en train de préparer cela. Et donc, nous voyons que le plan de Dieu était là. Puisque Jésus-Christ a accompli ce qui était annoncé, ce qui est venu avant, ça c'est la conclusion là, est aboli. Pas mis sur pause, mais l'ancienne alliance, ces choses sont abolies pour laisser place à la plénitude de Christ. Bon, on continue pour terminer avec les versets 11 à 18. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. Car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur intelligence. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et nous avons ici ce contraste, n'est-ce pas? Que fait le sacrificateur de l'ancienne alliance? Bon, il est toujours debout devant l'autel. Et être debout, c'est l'idée du service, c'est le signe du service. Il est debout parce que dès qu'il finit ce sacrifice, il doit en offrir un autre, et puis un autre, et puis un autre. Pourquoi? Parce que le péché des hommes déborde. Et il doit faire ce travail continuel pour le retenir ou pour faire cette purification temporaire pour les péchés. Mais que fait Christ? Est-ce qu'il est debout devant l'autel céleste aujourd'hui? Non, il est assis. Parce qu'il offre son sacrifice, une fois pour toutes, par son sang, pour purifier, et c'est fini. Et c'est fait. Et comme Dieu qui se repose le septième jour après la création et qui peut s'asseoir dans son règne sur l'univers. Bon, Christ fait la même chose. Il purifie les hommes et les choses célestes par son sang et il s'assied parce qu'il a purifié et il a pardonné une fois pour toutes. Plus jamais besoin d'offrir ce sacrifice qui a été fait une fois. Bon, qu'est-ce que ça change pour nous? Bon, on a déjà dit, n'est-ce pas, nous voulons pas compter sur la loi, mais je crois que vous croyez cela, hein, que ça, c'est pas vraiment notre lutte d'aller offrir des sacrifices à Dieu pour être dans des bonnes relations avec Dieu. Mais il y a deux choses qui sont importantes à voir. La première, c'est que ceci est une source de confiance vis-à-vis de Dieu. Notre relation avec Dieu, notre accès à sa présence ne dépend pas de ce que nous pouvons faire pour Dieu. Ça, c'est extrêmement clair. Mais ça dépend de ce que Christ a fait pour nous, selon la volonté du Père. Nous avons une relation de sanctifié avec Dieu. Nous avons l'intimité avec lui parce que Christ a fait le nécessaire. Et nous pouvons, et parfois même nous devons, manquer de confiance en nous-mêmes, spirituellement, moralement, hein, parce que nous ne sommes pas à la hauteur de l'appel de Christ. Nous voulons l'être, bien sûr. Mais Christ, lui, est à la hauteur. Il a fait le nécessaire et nous pouvons mettre notre confiance en lui. Et s'il nous arrive de douter que Dieu veuille de nous, que Dieu nous aime ou que Dieu nous pardonne, il faut toujours revenir à ce que Christ a fait sur la croix et par sa résurrection. Ça, c'est la source de notre confiance. C'est l'œuvre de Christ en accomplissant la volonté de Dieu. Et ce n'est pas nous-mêmes. Et ça, c'est donc la première chose. Cela devient pour nous source de confiance. Mais la deuxième chose, c'est aussi cette liberté que nous avons vis-à-vis du péché. La confiance vis-à-vis de Dieu, mais la liberté vis-à-vis du péché. On a un peu de peine avec cette notion de dire « nous sommes rendus parfaits par Christ » ou « nous sommes complètement sanctifiés ». Parce qu'on regarde nos vies, on dit « bon, je ne suis pas parfait. Je commets encore des péchés, j'ai des faiblesses, j'ai des luttes, j'ai des mauvaises pensées. » Et nous pouvons tous parler de cela. Mais le message de l'évangile, ce n'est pas juste le pardon pour vivre n'importe comment. Mais c'est l'idée, et c'est cette proclamation que nous sommes libérés, nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus parfaits en Christ. Et si vous faites une lecture de tout le Nouveau Testament, les chrétiens sont presque jamais appelés des pécheurs. Nous aimons bien cette expression, nous sommes tous des pécheurs pardonnés, n'est-ce pas? Et c'est vrai, mais ce n'est pas ça le titre des chrétiens. Le titre des chrétiens, c'est les saints, ou c'est les parfaits, ou c'est le peuple élu, ou c'est les frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est les membres de la famille de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Et c'est ces titres tellement élogieux qui ne semblent pas correspondre à notre quotidien, parfois. Mais ça, c'est comment nous sommes appelés par Dieu, et c'est comme cela que Dieu nous voit. Et notre but, c'est de vivre selon notre nom. Nous sommes des saints, alors nous voulons vivre comme des saints. Nous sommes rendus parfaits en Jésus-Christ, alors nous faisons tous nos efforts par le Saint-Esprit de vivre d'une manière parfaite et irréprochable devant Dieu. Mais ça, c'est notre identité. Notre identité n'est plus les gens coupables. Notre identité n'est pas les pécheurs. Ce n'est pas qui nous sommes. Nous sommes les saints en Jésus-Christ. Alors vivons comme cela. Et par le Saint-Esprit, Dieu a donné le pouvoir d'être libre, de ne plus marcher selon la voie du péché, de ne plus marcher selon la chair. Et avec tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, la question pour nous, c'est est-ce que nous allons vivre cette réalité? Est-ce que nous allons nous réjouir dans la sainteté que Dieu nous donne en Jésus-Christ? Est-ce que nous allons marcher avec fidélité en lui?